Cependant, s'il faut tout expliquer, il a manqué à Murena pour obtenir la préture deux circonstances qui l'ont merveilleusement servi pour le consulat. D'abord, le peuple attendait de lui des jeux dont certains bruits et les propos intéressés de ses compétiteurs avaient entretenu l'espérance. Ensuite, les soldats, qui dans la province et pendant sa lieutenance avaient été témoins de sa valeur et de sa générosité, n'étaient pas encore revenus à Rome. La fortune lui ménageait ces deux avantages pour le consulat, car l'armée de Lucullus, présente à Rome pour le triomphe de son général, appuya les prétentions de Murena, et sa préture lui a fourni le moyen de donner avec éclat ces jeux qu'on réclamait de lui avant l'élection. Alors trouvez-vous que ce soit là des avantages d'un faible discours, d'un faible secours pour obtenir le consulat ? Les soldats, dont la faveur est déjà si puissante à cause de leur nombre et du crédit qu'ils ont sur leurs amis, exercent encore par leur suffrage une grande influence sur le peuple romain, car ce sont des guerriers qu'on choisit dans les comices consulaires et non des interprètes de mots. C'est une recommandation bien puissante que celle-ci. Il m'a soigné dans mes blessures, il m'a donné part au butin, c'est sous sa conduite que nous avons forcé le camp ennemi, que nous avons livré bataille. Jamais il n'a imposé aux soldats des travaux qu'il ne partagea lui-même. Son bonheur est digne de son courage. Mais quel pouvoir de pareils discours n'ont-ils pas sur l'opinion et sur les esprits des hommes ? Et si telle est l'autorité de la religion dans les comices, que le choix de la première centurie a toujours été regardé comme un augure, doit-on s'étonner que la réputation de bonheur dont jouissait Murena ait déterminé son élection ? Si pourtant ces titres, tout puissants qu'ils sont, vous paraissent frivoles et que vous préfériez les suffrages de la ville à ceux de l'armée, daignez au moins ne pas tant mépriser l'élégance des jeux et la magnificence des spectacles qui ont si bien servi Murena. N'ai-je besoin de dire combien les fêtes ont d'attrait pour le peuple et la multitude ignorante ? Rien de moins surprenant, et cela suffirait sans doute, puisque c'est le peuple et la multitude qui composent les comices. Il ne faut donc pas s'étonner que la magnificence des jeux qui plaît tant au peuple l'ait rendu favorable à Murena. Si nous-mêmes, que l'empêchement des affaires écarte de tout plaisir, et qui, au sein de nos travaux, pouvons nous créer tant d'autres divertissements, nous trouvons du charme et de l'agrément dans ces fêtes, pourquoi vous étonner de leur pouvoir sur une multitude peu éclairée ? Lucius Otton, citoyen remarquant, commendable et mon ami, n'eut pas seulement pour but de rétablir en faveur des chevaliers un privilège honorable, il voulut encore assurer leur plaisir. Aussi, sa loi sur les jeux a-t-elle été accueillie avec une vive approbation, parce qu'elle a rendu à un ordre justement estimé, avec une distinction flatteuse, un agréable délassement. Les jeux, croyez-moi, ne déplaisent à personne, pas plus à ceux qui s'en cachent qu'à ceux qui en conviennent. J'en ai moi-même fait l'épreuve dans ma candidature, j'eus aussi à combattre ces redoutables solliciteurs. Si moi, qui, dans mon édilité, avais donné des jeux de trois sortes, je ne laissais pas d'éprouver quelque inquiétude de ceux qu'Antoine fit célébrer. Vous, à qui le sort n'a pas permis d'en donner, croyez-vous que ce théâtre, tout brillant d'argent, dont vous vous moquez aujourd'hui, n'ait point servi votre adversaire ? Supposons néanmoins tout égal entre nous. Admettons que les travaux du forum puissent être opposés aux travaux des camps, les suffrages de la ville à ceux de l'armée. Que ce soit la même chose d'avoir donné des jeux magnifiques ou de n'en avoir pas donné. Eh bien, dans votre préture, ne trouvez-vous aucune différence entre les fonctions que le sort vous assigne à vous et à lui ? Murena obtint la préture de la ville que nous tous, vos avis, nous désirions pour vous. Dans cette place, l'importance des attributions est une source de gloire. l'équité qu'on y montre une source de crédit. C'est là qu'un prêteur habile comme Murena l'a été. Soit par l'impartialité de ses jugements, ne blesser personne et se glorifier et se concilier tout le monde par son affabilité. Magistrature privilégiée et bien propre à mériter le consulat, puisqu'elle ouvre une libre carrière à l'équité, à l'intégrité, à la douceur du juge, et qu'elle se termine par la solennité des jeux. Et quel fut votre partage? Des fonctions tristes et dures, le jugement des crimes de Pécula d'un côté, le deuil et les larmes de l'autre, les chaînes et les délateurs. Il faut rassembler les juges malgré eux, les retenir contre leur volonté. La condamnation d'un greffier vous aliéna la compagnie entière. En désapprouvant les dons de Sylla, vous fîtes murmurer plusieurs citoyens estimables et presque la moitié de Rome. L'estimation des dommages fut sévère. Celui qui approuve cette rigueur l'oublie bien vite. Celui qui en souffre s'en souvient toujours. Enfin, vous n'avez point accepté de province. Je ne saurais blâmer en vous ce que j'ai cru devoir faire comme prêteur et comme consul. Cependant, Murena, en se montrant plus facile, trouva l'occasion d'augmenter sa renommée et le nombre de ses amis. Il fit en partant une levée de troupes dans l'Ombrie et la République lui avait permis d'accorder des exemptions. L'usage qu'il fit de ce pouvoir lui attacha plusieurs tribus composées des villes municipales de ce pays. Dans les Gaules, ses soins et son équité firent recouvrer à nos receveurs des finances, des sommes qu'ils croyaient perdues sans retour. Et vous, cependant, Sulpicius, vous obligiez vos amis à Rome, je le reconnais. Mais réfléchissez qu'il est bien des gens dont l'amitié se refroidit pour ceux qui dédaignent les provinces. Maintenant, juge, après avoir montré l'égalité des droits de Murena et de Sulpicius au consulat, et la différence de leur conduite pendant leur prêture, je vais dire avec franchise ce qui constitue l'infériorité de mon ami Servius, et je dirai devant vous aujourd'hui que l'élection est terminée, ce que plus d'une fois, avant la tenue des comices, je lui ai dit à lui-même. Vous ne savez point demander le consulat, Servius, je vous l'ai souvent répété. Et dans les circonstances mêmes où je vous voyais agir et parler avec énergie, je trouvais en vous plutôt le courage d'un sénateur que la prudence d'un candidat. D'abord, ces terribles menaces d'accusation que vous faisiez chaque jour prouvent sans doute un caractère intrépide, mais elles font croire au peuple qu'on a perdu toute espérance et refroidissent le zèle de nos amis. Je ne sais comment il arrive, et ce n'est plus dans une ou deux personnes, c'est dans plusieurs qu'on l'a remarqué. Dès qu'un candidat semble vouloir accuser son adversaire, on se persuade qu'il désespère du succès. Mais quoi? Est-il défendu de poursuivre une injustice? Non, c'est même un devoir, mais le temps où l'on sollicite n'est pas celui où l'on accuse. Je veux qu'un candidat, surtout celui qui aspire à la dignité consulaire, se présente au Forum et au Champ de Mars avec confiance, espoir, et entouré d'un nombreux cortège. Je n'aime pas en lui cet esprit d'inquisition qui est le présage d'un échec. Je n'aime pas qu'il cherche des témoins plutôt que des suffrages, qu'il menace au lieu de caresser, qu'il déclame quand il devrait solliciter, surtout depuis qu'un usage nouveau s'est introduit, celui de parcourir les maisons des candidats pour tâcher de surprendre sur leur visage les espérances et les ressources de chacun. « Voyez-vous, dit-on, comme il est triste et abattu. Le découragement, la défiance lui ont fait jeter les armes. Puis circulent ces bruits. Savez-vous qu'il médite une accusation? Qu'il informe contre ses compétiteurs? qu'il cherche des témoins. Oh, j'en aurai un autre, puisque lui-même il désespère. Et qu'arrive-t-il à de tels candidats? Leurs amis les plus intimes se relâchent, leurs ailes s'affaiblissent, ils abandonnent un homme qui désespère lui-même, ou réservent leurs beaux offices et leurs crédits pour le jugement et l'accusation. Ce n'est pas tout. Le candidat lui-même ne peut appliquer à sa demande tout son esprit, tous ses soins, toute son activité. Il est distrait par la pensée de l'accusation, qui, loin d'être une petite affaire, est au contraire la plus sérieuse de toutes. C'est une grande tâche de préparer tous ces griefs pour faire bannir un citoyen, et un citoyen riche et puissant, qui, par lui-même, par les siens ou même par des personnes étrangères, a toujours tant de moyens de défense. Dès qu'un homme est en péril, nous venons tous à son aide, et à moins d'inimitié déclarée, un accusé, quelque étranger qu'il nous puisse être, trouve en nous des défenseurs aussi zélés que dans ses meilleurs amis. Aussi, moi, qui connais par ma propre expérience tous les désagréments d'une candidature, d'une défense et d'une accusation, j'ai vu qu'il faut au candidat l'assiduité la plus soutenue, au défenseur le zèle le plus actif, à l'accusateur une laborieuse persévérance. Aussi je soutiens qu'il est impossible au même homme de brimer avec succès le consulat et de concerter en même temps une accusation. Peu d'hommes sont capables de suffire à l'une de ces tâches. Personne n'a toutes les deux à la fois. En oubliant votre rôle de candidat pour vous faire accusateur, avez-vous donc pensé pouvoir remplir cette double tâche? Vous êtes étrangement trompé. S'est-il passé un jour depuis que vous êtes entré dans cette voie d'accusation que vous n'ayez consacré tout entier à ces pénibles soins? Vous avez sollicité une loi sur la brigue, donc vous n'aviez pas besoin. La loi Capurnia était déjà assez sévère. Cependant, on s'est rendu à vos désirs par déférence pour votre caractère. Mais cette loi, qui aurait fourni des armes à votre accusation, si Murena eût été coupable, a été nuisible à vos intérêts de candidat. Vous avez exigé une peine plus forte contre le peuple. Les dernières classes se sont alarmées. Vous avez demandé l'exil contre ceux de notre ordre. Le Sénat y a consenti. Mais ce n'est pas sans répugnance qu'il a cédé à vos sollicitations pour rendre plus dure votre condition commune. Vous avez attaché une peine à l'excuse pour cause de maladie. Cette mesure a mécontenté beaucoup de gens qui se trouvent dans l'alternative d'agir au préjudice de leur santé ou de payer l'amende parce qu'ils sont malades. Mais enfin, qui donc a porté cette loi? Celui qui n'a fait qu'obéir à votre volonté et à l'autorité du Sénat? Celui qui n'y avait aucun intérêt personnel? Pensez-vous que les propositions que je vins à bout de faire rejeter par la majorité du Sénat vous aient fait peu de tort? Vous aviez demandé la confusion des suffrages, la remise en vigueur de la loi Marilla, l'abolition de toute distinction de mérite, de crédit et de rang. C'est avec une véritable douleur que des citoyens honorables, considérés dans leur cité et dans leur municipe, ont vu un homme de votre caractère vouloir faire ainsi disparaître tous les degrés de mérite et de considération. Vous vouliez encore que les juges fussent au choix de l'accusateur, afin que les haines sourdes qui se cachent aujourd'hui sous le voile d'inimitié secrète puissent éclater contre les meilleurs citoyens. Toutes ces mesures vous ouvraient la voie de l'accusation, mais vous fermez celle du consulat. Enfin, voici le coup le plus terrible que vous avez porté à vos prétentions, comme je vous en avertis alors. Et Hortensius, le plus ingénieux et le plus éloquent des hommes, vous l'approuvez par d'excellentes raisons. C'est ce qui rend ma tâche plus difficile encore, puisque venant à parler après lui, après un homme aussi distingué que Crassus, par la considération qui l'entoure, par son zèle et son talent, je n'avais point à traiter une partie spéciale de la cause, mais à dire sur l'ensemble ce que je jugeais à propos. Forcé de reproduire les mêmes idées, je ne puis que répéter, juge, ce que dans votre sagesse vous vous êtes déjà dit à vous-même. Et cependant, Servius, quel coup mortel n'avez-vous pas porté à vos prétentions quand vous auriez fait craindre au peuple romain d'avoir Catilina pour consul, en paraissant abandonner votre candidature pour préparer une accusation? Chacun vous voyait faire des enquêtes, on remarquait votre air soucieux, la tristesse de vos amis, vos recherches, vos démarches pour trouver des preuves et des témoins, vos conférences avec vos assesseurs. De pareils soins répandent des nuages sur le front des candidats. Cependant, Catilina marchait l'air joyeux et triomphant, escortée d'une nombreuse jeunesse, environnée de délateurs et d'assassins, fière de l'appui de ses satellites et des promesses qu'il se vantait d'avoir reçues de mon collègue, et traînant à sa suite une armée de colons d'Arétium et de Fésul. Dans ce ramas composé d'éléments si divers, on distinguait des hommes qu'avaient frappé les désastres du temps de Sylla. Leur chef, la fureur peinte sur le visage, le crime dans les yeux et la menace à la bouche, se croyaient certains du succès et regardaient déjà le consulat comme une proie assurée. Ils dédaignaient Murena. Ils voyaient leur Sulpicius un accusateur et non un concurrent. Ils lui déclaraient la guerre et menaçaient la République. Dans ces conjonctures, quel effroi pour les gens de bien, quel désespoir pour la République s'il eût été nommé consul. Ne me forcez point de retracer ces cruels souvenirs, ils sont présents à vos esprits. Vous vous souvenez de la terreur qui se répandit dans la ville avec le bruit des discours que cet infâme gladiateur avait tenu dans une assemblée secrète. Les malheureux, disait-il, ne peuvent trouver de défenseurs fidèles que dans un malheureux où les promesses des gens riches et puissants ne doivent inspirer aucune confiance aux citoyens pauvres et ruinés, que ceux qui veulent réparer leurs pertes, recouvrer les biens qui leur ont été ravis, considèrent ce que je dois à moi-même, ce que je possède, ce que j'ose. À des misérables, il faut pour marcher à leur tête un chef misérable et audacieux. Et c'est alors, vous le rappelez, que sur ces bruits alarmants, je provoquais le Senatus Consulte qui retarda les comices du lendemain, afin que le Sénat pût délibérer sur cette affaire. Et le lendemain, en pleine assemblée, je fis lever Catilina et lui ordonnai de répondre sur les faits qui m'avaient été révélés. Catilina, dont l'audace ne daigna jamais dissimuler, au lieu de désavouer son crime, se dénonça lui-même et leva tout à fait le masque. Il dit qu'il y avait deux corps dans la République, l'un faible avec une tête plus faible encore, l'autre plein de force mais manquant de tête. Quant à lui, il avait reçu trop de bienfaits de ce dernier pour ne pas lui servir de tête aussi longtemps qu'il vivrait. Les murmures du Sénat furent unanimes, mais la sévérité de son arrêt n'égala pas l'indignité d'une telle conduite. La confiance des uns, la pusillanimité des autres, empêchèrent de prendre un parti vigoureux. Alors, joyeux et triomphant, il s'élança hors du Sénat, lui qui n'aurait pas dû en sortir vivant, surtout après la reprise et la réponse que peu de jours auparavant il avait eu l'audace de faire à Caton au sein même de cette assemblée. Comme ce dernier le menaçait de le poursuivre devant les tribunaux, « Si l'on ose, dit-il, mettre le feu à l'édifice de ma fortune, ce n'est pas avec de l'eau, c'est sous des ruines que j'éteindrai l'incendie. » Alarmé de tant d'audace et sachant que les conjurés marchaient vers le champ de Mars, par l'ordre de Catilina, J'y descendis moi-même, escorté d'une garde brave et fidèle, revêtue d'une large et brillante cuirasse, non pour couvrir mes flancs et ma poitrine, car je savais que Catilina n'aimait frapper qu'à la tête et à la gorge, mais pour faire comprendre à tous les gens de bien, en leur montrant les craintes et le danger d'un consul, qu'il fallait accourir, comme ils l'ont fait, pour le défendre et lui porter secours. Aussi, Sulpicius, lorsqu'on vit l'ardeur de vos démarches se ralentir, l'espérance et l'ambition de Catilina devenir plus ardentes, tous ceux qui voulaient détourner de la République un pareil fléau se rangèrent aussitôt du côté de Murena. Dans les comices consulaires, rien n'est plus puissant que cet entraînement soudain des volontés, surtout quand il se porte sur un homme de bien qui réunit tant d'autres titres à la faveur publique. Né d'un père et d'aïeux illustres, après une jeunesse irréprochable, une lieutenance glorieuse, une prêture signalée par la justice, par l'éclat de ses fêtes, la sagesse de son admiration, il a sollicité le consulat avec ardeur, sans céder aux menaces et sans menacer personne. Est-il donc surprenant qu'un tel homme ait trouvé un puissant secours dans l'espérance subite que Catilina osa manifester d'obtenir le consulat? Me voici arrivé à la troisième partie du discours, aux accusations de brigue, accusations déjà réfutées par ceux qui ont parlé avant moi, et dont je ne parlerai que pour céder au désir de Murena. Je répondrai d'abord à Possumius, que j'aime et que j'estime, sur les dépositions des distributeurs et les sommes qu'il dit avoir été surprises entre leurs mains. Ensuite à Servius Sulpicius, je l'homme plein de talent et de vertu sur les centuries de chevaliers. Enfin à Caton, qui brille de tous les genres de mérite, sur son rôle d'accusateur, sur le Senatus consulte et l'intérêt public. Mais permettez-moi d'abord de vous exprimer les sentiments pénibles que vient d'exciter dans mon âme la situation de Murena. Il m'est déjà souvent arrivé, juge, en considérant les malheurs des autres, mes propres soucis et mes travaux journaliers, de regarder comme heureux les hommes qui, dégagés du soin de l'ambition, coulent leurs jours dans un paisible repos. Mais aujourd'hui, les périls si menaçants et si imprévus qui sont venus fondre sur Murena ont tellement navré mon cœur que je ne puis assez déplorer la fête destinée des hommes mêlés aux affaires publiques, et particulièrement le sort de cet infortuné citoyen. Les premiers efforts qu'il fait pour s'élever d'un seul degré au-dessus des honneurs dont sa famille et ses ancêtres ont joui sans interruption le mettent en danger de perdre tout à la fois et le rang que ses pères lui ont transmis et celui qui ne doit qu'à lui-même. En un mot, le désir d'une gloire nouvelle a compromis son ancienne position. À ce malheur pénible se joint celui plus cruel encore d'avoir pour accusateur des hommes qu'une inimitié particulière n'a point porté à l'accuser, mais qui sont entraînés vers la haine par le désir de réussir dans leur accusation. En effet, pour ne rien dire de Servius Sulpicius, qui est sans doute animé contre Murena, moins par des griefs personnels que par une rivalité d'honneur, quels sont ceux qui l'accusent? Un ami de son père, Cneius Postumius, depuis longtemps, comme il le dit lui-même, son voisin et son ami, qui a donné bien des motifs de leur liaison sans en donner un seul de leur rupture. Servius Sulpicius, le camarade de son fils, dont le talent ne devait être employé qu'à défendre les amis de son père. Marcus Cato, enfin, qui n'ayant aucun sujet d'inimitié contre Murena, ne semblait être né à Rome et dans notre siècle que pour faire servir sa puissance et son génie à protéger lui-même les citoyens qu'il connaît le moins, et jamais pour causer la perte de personne, même d'un ennemi. Je répondrai donc premièrement à Postumius, qui, je ne sais comment, de candidat prétorien qu'il était, s'est fait accusateur d'un candidat consulaire comme un voltigeur qui passerait d'un cheval sur un char. Si ses compétiteurs sont à l'abri de tout reproche, son désistement est un hommage qu'il rend à leur mérite. Si quelqu'un d'entre eux a répandu de l'argent, désirons avoir pour ami un homme capable d'oublier ses propres injures pour venger celles des autres. J'arrive enfin à Caton, le plus ferme et le plus solide appui de l'accusation, mais qui, malgré la gravité de ses imputations et sa véhémence, me semble plus redoutable par son autorité que par ses preuves. En présence d'un tel adversaire, je vous supplierai d'abord, juge, de vous défendre de l'impression que pourrait faire sur vous, contre les intérêts de Murena, le mérite de Caton, les espérances qu'il fait naître comme tribun désigné et l'éclat imposant d'une vie honorable. Enfin, ne permettez pas que mon client ait seul à souffrir des vertus que Caton s'est donné pour être utile à tous. Publius Scipion l'Africain avait été deux fois consul. Il avait renversé Carthage et Numance, les deux terreurs de cet empire, quand il accusa Lucius Cotta. Il réunissait à un degré éminent d'éloquence l'intégrité, la justice, et son autorité était égale à celle du peuple romain qui lui devait la sienne. J'ai souvent entendu dire à nos anciens que ce qui avait le mieux servi Lucius Cotta, c'était le mérite signalé de son accusateur. La sagesse des juges qui eurent à prononcer dans cette affaire ne voulut pas qu'un accusé pût paraître avoir succombé sous le puissant crédit de son adversaire. Et Servius Galba, car c'est un fait que l'histoire a conservé, n'a-t-il pas été soustrait par le peuple à la poursuite acharnée de votre illustre bisaïeul, Marcus Caton? Toujours dans cette république, la trop grande puissance des accusateurs a trouvé un contrepoids dans l'opposition de tout le peuple et la sage prévoyance des juges. Je ne veux pas qu'un accusateur apporte en justice trop de pouvoir et d'influence, trop d'autorité ou de crédit. Employez ces précieux avantages à sauver l'innocence, à protéger la faiblesse, à secourir l'infortune, mais jamais à poursuivre, à perdre un citoyen. Et ne dites pas qu'en se présentant ici comme accusateur, Caton a jugé la cause. Ce serait, juge, établir un principe injuste et aggraver encore le danger de ceux qu'on accuse que de considérer l'opinion de leur accusateur comme un préjugé contre eux. Pour moi, Caton, la singulière estime que je professe pour vos vertus ne me permet pas d'oser blâmer votre conduite. Mais peut-être pourrais-je y trouver quelques légers motifs de reproche. Vous commettez rarement des fautes, dit un sage vieillard à l'illustre guerrier, son élève. Mais quand la chose arrive, je puis vous reprendre. Pour vous, Caton, je puis dire en toute vérité que vous ne tombez jamais en faute et que vous avez plus besoin d'être un peu fléchi que d'être redressé. La nature, en effet, semble vous avoir créé pour l'honneur, la gravité, la tempérance, la magnanimité, la justice, en un mot, pour toutes les vertus qui font un grand homme. Ah, ces dons précieux, vous jouiez des principes où l'on aimerait avoir plus de modération et de douceur, et dont la sévérité et la rudesse dépassent les limites marquées par la nature et par la vérité. Et puisque je ne parle point ici devant une multitude privée de lumière et d'instruction, je m'expliquerai avec franchise sur une partie des connaissances humaines que vous cultivez et que vous aimez comme moi. Apprenez, Romains, que toutes les qualités excellentes et divines que nous admirons dans Caton lui appartiennent en propre. Ces légères imperfections ne lui viennent pas de la nature, mais du maître qu'il a choisi. Il y eut autrefois un homme d'un grand génie, Zénon, dont les sectateurs s'appellent stoïciens. Voici quelques-uns de ses dogmes et de ses principes. Le sage n'accorde rien à la faveur, il ne pardonne aucune faute. La compassion et l'indulgence ne sont que légèreté et folie. Il est indigne d'un homme de se laisser toucher ou fléchir. Le sage seul, fût-il contrefait, est beau. Fût-il pauvre, il est riche. Fût-il esclave, il est roi. Nous tous qui ne sommes point des âges, il nous traite d'esclaves fugitifs, d'exilés, d'ennemis, d'insensés. Toutes les fautes sont égales, tout délit est un crime. Étrangler son père n'est pas plus coupable que de tuer un poulet sans nécessité. Le sage ne doute jamais, ne se repent jamais, ne se trompe jamais, ne change jamais d'avis. Telles sont les maximes que le génie de Caton a adoptées, séduit par des autorités recommandables, non pas comme tant d'autres, pour en discourir, mais pour en faire la règle de sa vie. Si les fermiers de l'État demandent une remise, « Gardez-vous, dira-t-il, de rien accorder à la faveur. Des malheureux viennent-ils vous supplier ? C'est un crime, un forfait, que d'écouter la compassion. Un homme avoue qu'il a commis une faute et demande grâce. C'est être coupable que de pardonner. Mais la faute est légère. Toutes les fautes sont égales. Un mot vous est-il échappé ? C'est un arrêt irrévocable. Vous avez obéi aux préjugés plutôt qu'à la raison. Le sage ne hasarde rien. Vous vous êtes trompé en quelque chose. Il crie à l'insulte. De cette doctrine, voici ce qui résulte contre nous. J'ai déclaré en plein Sénat que j'accuserai un candidat consulaire. Oui, mais vous l'avez dit dans la colère. Mais le sage est toujours maître de lui. Mais c'était à propos du moment. Il n'y a que un honnête homme qui puisse tromper et mentir. Changer d'avis est une honte, pardonner est un crime. Écouter la pitié, une lâcheté. Les maîtres que j'ai suivis, car je l'avoue, Caton, ma jeunesse comme la vôtre, se défiant de ses propres lumières à chercher à s'instruire dans l'école, mes maîtres, dis-je, fidèles aux principes modérés de Platon et d'Aristote, disent que le sage n'est pas toujours insensible à la faveur. La compassion honore l'homme de bien. Il doit y avoir des degrés dans les châtiments comme dans les fautes. La clémence se concilie quelquefois avec la fermeté. Le sage émet souvent un doute quand il ignore. Il peut être emporté par la colère. Il se laisse fléchir et désarmer. Il doit quelquefois rectifier ce qu'il a dit, renoncer à son premier sentiment. Enfin, toutes les vertus doivent être renfermées dans de certaines limites. Si avec votre heureux naturel, Caton, le hasard vous eût conduit à l'école de ces philosophes, vous n'auriez pas plus de vertus, de force d'âme, de tempérance ou de justice. Cela est impossible. Mais vous seriez un peu plus enclin à la douceur. Vous n'accuseriez pas, sans aucun motif d'inimitié ou d'injure particulière, un homme plein de modestie, d'honneur et de mérite. Vous auriez pensé que la fortune, en vous préposant tous deux la même année à la garde de la République, vous unissait par une sorte de lien politique. Ce langage violent que vous avez tenu dans le Sénat, vous auriez évité de le tenir, vous l'auriez oublié, vous en auriez tiré une conséquence moins rigoureuse. Mais s'il m'est permis de hasarder une conjecture, cette sévérité, fruit d'un certain enthousiasme, augmentée par l'ardeur de votre caractère et de votre imagination, et échauffée par le souvenir encore récent des leçons de vos maîtres, se modifiera par l'expérience, s'apaisera avec le temps et s'adoucira avec l'âge. En effet, ces précepteurs que vous avez suivis, ces professeurs de vertu ont porté le devoir de l'homme au-delà des bornes prescrites par la nature, afin que notre esprit, en voulant atteindre la perfection la plus haute, s'arrêtât au point marqué par la raison. Vous ne pardonnerez jamais. Non, pardonnez quelquefois, mais pas toujours. Vous n'accorderez rien à la faveur. Non, mais sachez lui résister quand le devoir et l'équité l'ordonnent. Vous serez sourd à la pitié. Oui, si elle doit vous affaiblir l'autorité des lois. Mais cependant, l'humanité est une vertu. Vous persisterez dans votre sentiment, oui, sans doute, tant que vous n'en connaîtrez pas de meilleur. Tel fut Scipion qui, comme vous, se faisait honneur de ses maximes et qui avait chez lui un homme d'un savoir profond, presque divin. Mais les leçons et les préceptes de ce philosophe, quoique conformes aux préceptes qui font vos délices, au lieu d'endurcir son caractère, en firent, comme je l'ai entendu dire au vieillard, le plus doux et le plus indulgent des hommes. Lélius avait suivi la même école. Qui jamais sut aussi bien que lui allier la gravité à la douceur, l'amabilité à la sagesse? Je pourrais en dire autant de Lucius Philippus et de Caius Gaius, mais j'aime mieux vous ramener dans votre famille. Quel homme, dites-moi, eut jamais dans toutes les relations sociales plus de bienveillance, plus d'amabilité, plus de douceur que Marcus Caton, votre bisaïeul, lui dont vous avez dit vous-même, en faisant de ses hautes vertus un éloge apparemment noble et vrai, que vous le proposiez comme un exemple domestique? Oui, sans doute, vous avez dans votre maison un modèle admirable. Toutefois, si la conformité de caractère et les liens du sang vous donnent plus qu'à personne de nous avoir davantage de lui ressembler, ce n'est pas moins un devoir pour moi que pour vous d'imiter ses vertus. Et vous, si vous mêliez à l'austérité de votre sagesse une teinte légère de sa douceur et de son aménité, toutes vos qualités, sans devenir meilleures, puisqu'elles sont parfaites, en paraîtraient du moins plus aimables. Ainsi, pour en revenir à ce que j'ai déjà dit, retranchez de cette cause le nom de Caton, écartez, oubliez un crédit qui, en justice, doit être nul ou servir à protéger le malheur. Venons-en aux griefs eux-mêmes. Quel est le délit? Que dénoncez-vous? Que prétendez-vous? Vous vous élevez contre la brigue. Je ne la défends pas. Vous me reprochez de défendre un délit que j'ai proscrit par une loi. Oui, j'ai proscrit la brigue, mais non l'innocence. Accusez la brigue, je me joins à vous. Un sénatus consul, dites-vous, a déclaré sur mon rapport que les candidats qui donneraient de l'argent pour qu'on vînt à leur rencontre, qui se feraient suivre d'un cortège de gens soudoyés, qui distribueraient à des tribus entières des places au combat de gladiateurs ou donneraient des repas au peuple, auraient violé la loi Calpurnia. Le Sénat regarde en effet tous ces actes, quand ils ont lieu, comme une violation de la loi. En cela, il statue pour plaire aux candidats, ce qui n'avait pas besoin d'être réglé. Le fait a-t-il eu lieu ou non? Voilà ce qu'il est important de prouver. S'il est constaté, nul doute qu'il y ait contravention. Il est donc ridicule de laisser sans examen ce qui est douteux et de prononcer sur ce que personne ne révoque en doute. Le sénatus consulte a été rendu à la requête de tous les candidats. Il est impossible de dire contre qui ou en faveur de qui on l'a décrété. Prouvez donc que Murena a commis les actes dont il s'agit, et je conviendrai avec vous qu'il a enfreint la loi. Au retour de sa province, quand il s'est présenté pour demander le consulat, une foule nombreuse s'est portée à sa rencontre, c'est l'usage. Au-devant de qui ne va-t-on pas? Mais quelle était cette multitude? En premier lieu, me fut-il impossible de vous donner satisfaction sur ce point? Pourquoi s'étonner que l'arrivée d'un tel candidat, d'un candidat consulaire, ait attiré un nombreux concours? Le contraire serait bien plus surprenant. Si j'ajoutais que, conformément à l'usage, plusieurs y furent invités, est-ce un crime, une chose inouïe, que dans une cité où souvent nous consentons volontiers à accompagner sur leurs prières les fils des hommes les plus obscurs, au lever du soleil et d'un bout de la ville à l'autre, on n'ait fait aucune difficulté de venir au Champ de Mars, à la troisième heure du jour, pour se rendre à l'invitation d'un homme tel que Murena? Et si je vous disais qu'on y a vu toutes les compagnies des fermiers publics, et parmi elles plusieurs de nos juges? Si les membres les plus distingués de notre ordre s'y trouvaient, si le peuple entier des candidats, ces hommes officieux qui font une escorte d'honneur à tous ceux qui entrent dans la ville, si enfin notre accusateur Postumius y est venu lui-même avec toute sa suite, qu'y a-t-il de surprenant dans cette affluence? Je ne parle ni des clients de Murena, ni de ses voisins, ni des hommes de sa tribu, ni de toute l'armée de Lucullus qui était venue pour le triomphe. Je dis seulement que l'hommage désintéressé de ce concours n'a jamais manqué aux hommes de mérite, ni même à ceux qui ont désiré l'obtenir. Mais ce cortège a continué à le suivre. Prouvez-moi qu'il était soudoyé, et je conviendrai du délit. Sinon, que nous reprochez-vous? À quoi bon ce cortège? C'est me demander à quoi bon un usage reçu. Les citoyens d'un ordre inférieur n'ont qu'un moyen de mériter ou de reconnaître les services des personnes de notre ordre. C'est le zèle et l'empressement dont ils font preuve quand nous sollicitons les charges. Il est impossible d'attendre et d'exiger des sénateurs et des chevaliers romains qu'ils accompagnent leurs amis pendant des journées entières. S'ils nous font de fréquentes visites, s'ils nous conduisent quelquefois au forum, s'ils veulent bien faire avec nous un seul tour dans la basilique, c'est de leur part une haute marque d'estime et de considération. Mais une cour plus assidue, nous ne pouvons l'attendre que d'amis d'un rang inférieur et de clients désœuvrés. Et cette influence n'a jamais manqué aux citoyens bons et bienfaisants. N'allez donc pas, Caton, enlever aux dernières classes du peuple ce fruit de leur zèle. Souffrez que ceux qui ont en nous toute leur espérance puissent avoir aussi quelque chose à nous offrir. S'ils n'ont que leur suffrage, c'est bien peu, car il ne fut en rien sur les suffrages des autres. D'ailleurs, comme ils le disent eux-mêmes, ils ne peuvent ni nous défendre en justice, ni nous servir de caution, ni nous recevoir à leur table. Tous ces bons offices, c'est de nous qu'ils les attendent, et ils croient ne pouvoir les reconnaître que par un dévouement assidu. Aussi ont-ils résisté à la loi Fabia, qui restreint le cortège des candidats et au Senatus Consulte porté sous le consulat de Lucius César. Il n'est en effet aucune rigueur qui puisse empêcher les citoyens pauvres de nous rendre un hommage consacré par une longue habitude. Mais des tribus entières ont eu place dans le cirque et ont été conviées à des repas publics. Quoique ce ne soit nullement le fait de Murena et que ses amis ne soient coupables que d'avoir suivi la coutume, je me rappelle cependant à cette occasion, Servius, Combien toutes ces plaintes débattues dans le Sénat nous ont enlevé le suffrage? Car du temps de nos pères comme de nos jours, soit envie de plaire, soit libéralité, on a toujours loué des places au cirque et au forum pour ses amis et les citoyens de sa tribu. Un intendant des ouvriers donna une fois dans les jeux une place à ceux de sa tribu. Que staturez-vous contre les hommes du premier rang, qui pour le même objet ont loué dans le cirque des loges entières? Toutes ces accusations contre les cortèges, les spectacles, les repas ont donné sujet au peuple, Sulpicius, de vous taxer d'une rigueur minutieuse. Et cependant, ce décret du Sénat est, sur ce point, la justification de mon client. Que porte-t-il en effet? Défend-il d'aller au-devant de quelqu'un? Non. Mais d'y aller pour de l'argent. Prouver que nous en avons donné. Défend-il d'avoir un nombreux cortège? Non, s'il n'est pas salarié. Prouvez donc. Défend-il de donner des places au spectacle, d'inviter à des repas? Nullement. Mais de le faire indistinctement pour le public, c'est-à-dire pour tous les citoyens. Si Lucius Natta, jeune homme d'une haute naissance, dont les nobles sentiments présagent déjà ce qu'il sera un jour, a traité les centuries de chevaliers pour remplir un devoir de parenté et pour se ménager dans la suite quelques crédits à lui-même, devons-nous en faire un grief, un crime à Murena, son beau-père? Si une vestale qui lui est unie par les liens du sang et de l'amitié lui a cédé les places dont elle dispose au jeu du cirque, n'a-t-elle pas agi en bonne parente? Et lui, n'est-il pas à l'abri de tout reproche? Ce sont là des services entre parents, des plaisirs pour le peuple, des obligations pour les candidats. Mais Caton m'oppose toute la sévérité d'un stoïcien. Il réprouve, au nom de la morale, les repas donnés pour capter la bienveillance du peuple. Il condamne les manœuvres qui tendent par l'amorce des plaisirs à gagner les suffrages dans les élections. Ainsi, quiconque aura donné un repas dans l'intérêt de sa candidature doit être condamné. Et quoi, dit-il, le souverain pouvoir, l'autorité suprême, le gouvernement de la République seront le prix de votre adresse à flatter les passions des hommes, à séduire leurs esprits, à les enivrer de volupté. Est-ce un trafic de débauche que vous faites avec une jeunesse efféminée ou le gouvernement du monde que vous demandez au peuple romain? Étrange discours que réfutent nos usages, notre genre de vie, nos mœurs, notre état politique. Cependant, ni les lacédémoniens, dont vous avez emprunté ce caractère et ce langage, et qui prennent leur repas assis sur le tronc d'un chêne, ni les crétois, qui mangent toujours debout, n'ont su conserver l'indépendance de leur patrie plus longtemps que les Romains, qui partagent leur temps entre le travail et les plaisirs. L'un de ces peuples a cessé d'être à la simple apparition de notre armée. L'autre ne doit qu'à la protection de notre empire, le maintien de ses lois et de ses institutions. Veuillez donc, Caton, ne pas censurer avec tant d'amertume d'antiques usages sanctionnés par la République elle-même et par la durée de cet empire. Il y eut aussi chez nos aïeux un homme aveuglé par ce même amour du stoïcisme, citoyen distingué d'ailleurs par ses connaissances, sa vertu, sa noblesse, Quintus Tuberon. Lorsque Quintus Maximus, pour honorer la mémoire de Scipion l'Africain, son oncle paternel, donna un repas au peuple romain, il pria Tuberon de présider aux apprêts en sa qualité de neveu de ce grand homme. Le savant, en vrai stoïcien, fit étendre des peaux de bouc sur des lits à la carthaginoise et servit en vaisselle de Samos, comme s'il eût adoré la tombe de Diogène le Cynique, et non celle de Scipion, de cet homme presque divin, dont Quintus Maximus fit un éloge si glorieux à ses funérailles, quand il rendit grâce aux dieux immortels de l'avoir fait naître dans notre république, l'empire du monde devant être là où était né Scipion. La sagesse, mal entendue de Tubéron dans cette cérémonie, mécontenta vivement le peuple romain. Aussi, malgré son intégrité, son zèle pour le bien public, le petit-fils de Polémie, le neveu de Scipion l'Africain, comme je l'ai déjà dit, succomba dans ses prétentions à la préture, sous le ridicule de ses peaux de bouc. Le peuple romain hait le luxe dans les particuliers, mais il aime la magnificence dans l'État. Il ne veut point la profusion dans les repas, mais encore moins une basse et sordide avarice. Il sait faire la part des devoirs et des temps, allier avec sagesse le travail au plaisir. Vous-même, quand vous prétendez que le mérite d'un candidat doit seul lui concilier le suffrage, je dis que, malgré tout le vôtre, vous n'êtes pas conséquent avec vous-même. Pourquoi sollicitez-vous de chacun sa bienveillance et son appui? Vous me priez de vous choisir pour me commander, de me confier à votre vigilance. Mais quoi? Est-ce donc à vous à me solliciter? N'est-ce pas plutôt à moi de vous prier de vous charger du soin pénible et dangereux de veiller ma sûreté? Que dis-je? Et ce nomenclateur qui vous accompagne, n'est-ce pas là abuser et tromper les citoyens? Car si c'est une politesse de votre part que de saluer vos concitoyens par leur nom, il est honteux que votre esclave les connaisse mieux que vous. Si vous les connaissez, et que néanmoins vous croyiez devoir interroger ce nomenclateur, pourquoi n'attendez-vous pas pour solliciter leur suffrage, qu'ils vous aient dit leur nom à l'oreille? Pourquoi, quand on vous a dit leur nom, les saluez-vous d'un air de reconnaissance? Pourquoi, enfin, une fois désignés, les saluez-vous plus négligemment? Cette conduite envisagée d'après vos usages n'a rien de blâmable, mais elle est criminelle si vous la jugez avec la sévérité de vos principes. Ne privez donc pas le peuple romain du plaisir qu'il trouve au jeu, au spectacle de gladiateurs, aux festins et à tous ces divertissements institués par nos ancêtres. Laissez les candidats exercer une bienveillance qui prouve plutôt de la générosité que de coupable largesse. Mais, dites-vous, c'est l'intérêt de l'État qui vous a fait accusateur. Je le crois, Caton, c'était là votre intention première. Mais l'excès de votre zèle vous égare. Pour moi, juge, si je défends Murena, ce n'est pas seulement à cause de son mérite et de l'amitié qui nous unit. C'est surtout, je le dis hautement, je le proteste, pour assurer la paix, le repos, la liberté, le salut et la vie de tous les citoyens. Écoutez, écoutez un consul qui peut dire sans présomption que le salut de la République occupe nuit et jour toutes ses pensées. Catilina ne méprisait pas assez la République pour se flatter d'opprimer Rome avec cette poignée de brigands qu'il a emmenés avec lui. La contagion de son crime s'étend plus loin qu'on ne pense. Elle a gagné de nombreux complices. Dans Rome, oui, dans Rome, est le cheval de Troie. Mais tant que je serai consul, jamais on ne vous surprendra pendant votre sommeil. Vous me demandez si je crains encore Catilina? Non. Et j'ai pris des mesures pour que personne n'eût à le craindre. Mais ce qu'il faut redouter, ce sont, je vous le dis, les troupes qu'il a laissées au milieu de nous. L'armée de Catilina est aujourd'hui moins à craindre que ses prétendus déserteurs. Loin d'avoir abandonné leur chef, c'est par ses ordres qu'ils sont restés en embuscade, épiant le moment de fondre sur nous. Effrayés d'avoir à combattre un consul intègre, un général habile que son caractère et ses intérêts attachent au salut de la patrie, ils veulent que par vos suffrages, ils soient arrachés du poste où il aurait défendu votre ville et sauvé l'État. Au champ de Mars, j'ai repoussé l'audace et le fer de ces factieux. Au forum, j'ai terrassé leur fureur. Dans ma propre maison, j'ai évité leurs coups. Si vous leur livrez un consul, votre arrêt les servira mieux que leur poignard. Il est très important, juge, et je l'ai demandé, je l'ai obtenu, malgré de vives oppositions, que la République ait deux consuls au calende de janvier. Non, gardez-vous de le croire. Ce n'est point par de timides complots, par des voies communes, par une loi dangereuse ou de criminelle largesse que l'on prépare aujourd'hui le renversement de l'État. C'est dans Rome même qu'on médite la ruine de Rome, le massacre de ses habitants, l'extinction du nom romain. Et ces attentats, ce sont des citoyens, oui, juge, des citoyens, s'il est permis de profaner ainsi ce nom, qui les ont médités et les méditent encore. Chaque jour, je déjoue leur complot, je réprime leur audace, j'arrête leur fureur. Mais je vous en avertis, Romains, mon consulat touche à sa fin. Ne m'enlevez pas un successeur d'une vigilance digne de la mienne. Ne m'enlevez pas un magistrat à qui je veux remettre la République intacte, pour qu'il la préserve à son tour de tous ses dangers. Ne voyez-vous pas, juge, quel nouveau malheur va se joindre à tous les autres? Qu'a-t-on, je vous le demande? Ne pressentez-vous pas les orages de votre tribunal? Déjà, dans l'assemblée d'hier, a retenti la voix sinistre du tribun désigné, votre collègue. C'est le même contre lequel s'est armée votre prévoyance et celle de tous les gens de bien qui vous ont engagé à demander cette magistrature. Tous ces complots ourdis depuis 3 ans, depuis que Lucius Catilina et Cneius Pison ont formé le projet d'égorger tout le Sénat, c'est en ces derniers mois, c'est en ces sourcils, c'est à l'heure même qu'ils éclatent. Est-il un seul lieu, juge, un seul jour, une nuit, un moment où la providence des dieux, plus encore que ma vigilance, ne m'est soustrait et arraché au piège et au poignard des assassins? Et ce n'est pas moi, personnellement, qu'ils attaquent. Ils veulent se débarrasser du consul dont les soins garantissent la République de leur coup. Et vous-même, Caton, il se déferait de vous à tout prix, s'il le pouvait. Croyez-moi, c'est là le but de leur manœuvre et de leur complot. Ils voient ce qu'il y a en vous de courage, de talent, de crédit, de dévouement à soutenir la République. Mais ils se flattent qu'après avoir dépouillé la puissance tribunicienne de l'assistance et de la protection consulaire, ils viendront plus facilement à bout d'un tribun faible et désarmé. Ils ne craignent point qu'on nomme un autre consul. Assurés qu'ils sont que la nomination dépend de vos collègues. Mais ils espèrent que l'illustre Silanus leur sera livré sans collègues, vous sans consul et la République sans défense. Au milieu de conjonctures si critiques et de périls si menaçants, c'est à vous, Caton, qui êtes né pour la patrie, et non pour vous ni pour moi, d'examiner ce qu'il faut faire, de vous conserver dans le gouvernement un appui, un défenseur, un digne soutien, un consul sans ambition, et tel que les circonstances le demandent, intéressé par sa position à armer et à aimer la paix, capable par ses talents de faire la guerre, par sa résolution et son expérience d'exécuter tout ce qu'exigera le salut de la République. Au reste, juge, c'est surtout à vous que sont remis de si précieux intérêts. C'est à cause de la République que vous jugez. C'est de vous que ses destinées dépendent. Si Catilina et la troupe des scélérats qu'il a emmenés avec lui pouvaient prononcer dans cette affaire, il condamnerait Murena. Il le ferait périr s'il disposait de sa vie. Car il apporte à leur projet que la République soit privée d'appui, que le nombre de généraux capables de résister à leur fureur soit réduit, et que l'éloignement d'un adversaire redoutable laisse aux tribuns plus de facilité pour exciter la discorde et la sédition. Et des magistrats choisis dans les deux premiers ordres de l'État, comme les plus vertueux et les plus sages, pourraient porter dans cette affaire le même jugement que cet infâme gladiateur, ce cruel ennemi de la République. Croyez-moi, juge, ce n'est pas seulement sur le sort de Murena, c'est aussi sur le vôtre que vous allez prononcer. Nous touchons à une crise terrible. Nous n'avons plus de moyens de réparer nos pertes et de nous relever de notre chute. Loin d'affaiblir les dernières ressources qui nous restent, il faut, s'il est possible, nous en créer de nouvelles. L'ennemi n'est pas sur les bords de l'agneau. Ce qui parut un si grand danger dans la guerre punique, il est dans nos murs, il est dans le forum. Il est, ô dieux immortels, je ne puis le dire sans gémir, dans le sanctuaire de la République, au milieu même du Sénat. Fasse les dieux que la valeur de mon collègue écrase sous ses armes victorieuses la rébellion du brigand qui nous menace. Et moi, puissais-je, sans quitter la toge, avec votre secours, avec celui de tous les gens de bien, découvrir et étouffer par ma vigilance le germe des fléaux que la République recèle et couve dans son sein. Mais qu'arrivera-t-il si le torrent vainement contenu par nos mains rompt sa digue l'année prochaine? Nous n'aurons plus qu'un consul, et un consul moins occupé de soutenir la guerre que de se donner un collègue. Déjà, on s'apprête à lui susciter des obstacles. Et bientôt, Catilina, cet exécrable monstre, lèvera sa tête hideuse. Déjà, il menace le peuple romain. Bientôt, il sera aux portes de Rome. La fureur régnera dans son camp, l'épouvante dans le Sénat, la conjuration dans le Forum, la guerre dans le Champ de Mars, la désolation dans les campagnes, le fer et le feu nous poursuivront partout. Mais si l'État conserve ses défenseurs, tous ces complots tramés depuis longtemps seront étouffés sans peine par la sagesse de nos magistrats et les efforts des citoyens. Puisqu'il en est ainsi, juge, c'est d'abord au nom de la patrie dont l'intérêt doit passer avant tout. C'est en mémoire du dévouement infatigable dont j'ai toujours fait preuve pour le bien de l'État. C'est avec l'autorité d'un consul, c'est en présence du danger qui nous menace, que je vous conseille, vous recommande, vous supplie d'assurer votre repos, votre tranquillité, votre conservation, votre existence et celle de tous les Romains. Je vous en conjure en outre, et comme ami et comme défenseur de l'accusé, dans la douloureuse situation où Murena a été réduit par les souffrances de l'esprit et du corps, ne changez point en larmes cruelles la joie des félicitations que tout à l'heure il recevait encore. Honorez naguère du plus grand bienfait que puisse accorder le peuple romain. Il semblait heureux d'avoir, le premier, porté le consulat dans une famille illustre, dans une ancienne ville municipale. Maintenant, couvert d'habits de deuil, épuisé par la maladie, plongé dans le chagrin et dans les larmes. Il est devant vous en suppliant. Juge, il atteste votre justice, implore votre pitié. Il n'a d'espoir qu'en votre puissance et votre protection. Au nom des dieux immortels, juge, ne souffrez pas que ses efforts pour s'élever à de nouvelles dignités le privent de celles qu'il possédait déjà et lui ravissent en même temps et son honneur et sa fortune. Murena vous en prie et vous en conjure. S'il est vrai qu'il n'a jamais fait de tort à personne, s'il n'a jamais blessé personne par ses paroles ou ses actions, si, pour ne rien dire de plus, il ne s'est jamais attiré d'inimitié, soit à Rome, soit dans les camps, que sa modestie, que sa simplicité, que sa retenue trouvent auprès de vous un asile, un refuge et un appui. Le citoyen dépouillé du consulat est digne de votre pitié, puisqu'en le perdant, il perd tout à la fois. Le consulat lui-même ne peut être un objet d'envie dans un temps où il expose aux déclamations des factieux, aux pièges des conspirateurs, aux poignards de Catilina, à tous les périls, à toutes les haines. Non, juge, je ne vois pas ce qu'on peut envier à Murena ou à quelqu'un de nous dans cette brillante magistrature. Quant aux malheurs qui l'accompagnent, ils sont présents à mes yeux, et vous pouvez les voir et les apprécier, comme moi. Si votre arrêt, et puisse Jupiter détourner ce présage, si votre arrêt le condamne, où l'infortuné cherchera-t-il un refuge? Dans sa maison? Mais la noble image de son père qu'il voyait il y a peu de jours, sourire joyeuse au triomphe de son fils, il la verra douloureusement attristée de sa honte et pleurant sur lui. Auprès de sa mère? Mais la malheureuse qui dans son fils embrassait naguère un consul, tremble et frémit de ne plus même le recevoir citoyen. Que dis-je? Faut-il parler de mère ou de maison pour celui que la peine nouvelle infligée par la loi priva jamais de sa maison, de sa mère, de la présence et de la vue de tous les siens? L'infortuné, il ira donc en exil? Mais dans quel lieu? Sera-ce en Orient où, pendant plusieurs années, comme lieutenant de Lucullus, il s'est signalé à la tête de nos armées par les plus brillants exploits? Quelle douleur de retourner la honte sur le front dans un pays d'où l'on est revenu couvert de gloire. Ira-t-il se cacher à l'autre extrémité de la terre pour que la Gaule transalpine, qui naguère se voyait avec bonheur soumise à son autorité suprême, le renvoie prescrit et tout témoin de ses larmes? Et dans cette province, comment pourra-t-il soutenir la vue de Caius Murena, son frère? Pour l'un, quelle douleur! Pour l'autre, quel profond chagrin! Comme ils mêleront leurs larmes! Quel bouleversement de fortune! Quel changement de langage! Lorsqu'en ces lieux où peu de jours auparavant, des courriers et des lettres publiaient son élévation au consulat, et d'où ses amis et ses hôtes sont accourus à Rome pour le féliciter, il paraîtra soudain, apportant lui-même la nouvelle de sa disgrâce. Si dans ce pénible tableau tout est deuil et désolation, si tant de douleurs répugnent à votre douceur et à votre humanité, conservez à Murena, juge, le bienfait du peuple romain. Rendez à la République son consul. Accordez cette grâce à la vertu du fils, à la mémoire du père, à son nom, à sa famille, à l'honorable municipe de l'Anuvium, dont vous avez vu les habitants désolés assister en foule à ces débats. N'enlevez pas au culte héréditaire de Junon conservatrice à qui tous les consuls doivent sacrifier, un consul né presque dans son temple, et qu'elle regarde comme le sien. Pour moi, juge, si ma recommandation a quelque poids et mon témoignage quelque autorité, consul moi-même, je vous recommande un consul plein d'amour pour l'ordre, de dévouement pour les citoyens, d'énergie contre la sédition, de courage à la guerre, de haine, enfin, contre le complot qui aujourd'hui ébranle les fondements de la République. Oui, tel sera Murena, j'ose vous le promettre, et en prendre ici le solennel engagement.